Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h.
Europe 1, 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver vraiment. Hein. Bienvenue à bord, Europe 1 13h. Vous le savez, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, le Premier ministre est à Nice pour superviser une expérimentation dans un établissement scolaire, des internats éducatifs pour enrayer la violence des mineurs. Europe 1 est avec Gabriel Attal. Le projet de loi sur la fin de vie entame son marathon législatif à l'Assemblée nationale aujourd'hui avec le début des auditions par la commission spéciale et déjà une polémique. L'actualité, c'est aussi le chanteur Kenji Girac, blessé par balle au thorax et hospitalisé à Bordeaux. Une enquête est en cours, tous les détails dans quelques instants. Et puis, c'est le début de la semaine de la vaccination. Êtes-vous à jour? La Haute Autorité de Santé veut simplifier le calendrier pour toutes les tranches d'âge. Rendez-vous à la fin de ce journal. 13h01, Géraldine Hamon, la tendance météo pour ce lundi après-midi.
Averse sur le nord et l'est du pays, soleil au sud, des températures qui sont fraîches pour la saison, 10 à 15 degrés en général, jusqu'à 19 degrés près de la Méditerranée. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre cette Europe 1 13h avec ce reportage édifiant à Montpellier, alors que l'opération Place Nette pour enrayer le narcotrafic a permis d'interpeller 7 personnes et de saisir 17 kilos de cannabis. Eh bien, un mois plus tard, le trafic a repris de plus belle, notamment dans le très sensible quartier d'Aiglongue. L'arrogance des dealers, vous allez l'entendre, est sidérante. Le reportage de Charles L'Huillier.
300 logements HLM, 1000 habitants et une activité liée à la drogue qui a repris comme au premier jour. Mais cela ne perturbe en rien la vie de la cité, assure Younes, l'un des grands du quartier.
Ici, comme je t'ai dit, t'as eu ta voiture, tu la laisses, tu laisses les clés, ça bouge pas, y a pas de vol, y a pas.
Ouais, on a retrouvé quand même une Kalachnikov dans l'un des appartements.
Et ouais, au cas où, c'est la sécurité, t'as vu.
Younes, qui sait de quoi il parle, c'est lui le patron des guetteurs ici.
Je suis payé 150 euros par jour, j'ai juste à poster les guetteurs le matin et le soir, les déplacer de leur poste et les payer. D'accord. Et ils touchent 130 euros par jour.
Des guetteurs, tous très jeunes, à l'image de cet adolescent de 14 ans à la voix juvénile, pas du tout inquiété suite à l'opération Place Nette.
On est des employés, c'est un point de deal.
Tu sais, il y a eu l'opération Place Nette là.
Ouais, on s'en bat les couilles. Tous les jours, le point de deal, il est ouvert. Il y a toujours des toxicomanes, tant que ça nous paye, faut que le hazi débite.
L'argent qui va continuer à couler à flot ici, malgré la récente opération, le business lié à la drogue dans ce quartier générerait 200 000 euros par mois. À Montpellier, Charles L'Huillier, Europe 1.
Des témoignages édifiants recueillis par Charles L'Huillier. Et à ce jour, 473 opérations Place Nette ont été lancées, donnant lieu à 3800 interpellations. 3 tonnes de cannabis et plus de 600 armes ont été saisies. L'actualité de ce lundi 22 avril, c'est aussi le déplacement de Gabriel Attal ce matin à Nice, aux côtés d'Éric Dupond-Moretti. Et ce pour inaugurer un internat éducatif pour les élèves en décrochage scolaire pendant 15 jours de vacances, eh bien une vingtaine d'élèves de 13 à 16 ans vivront en immersion encadrés par des éducateurs spécialisés. Alexandre Chauveau, vous suivez ce déplacement pour Europe 1. L'objectif, c'est d'empêcher ces jeunes de tomber dans la délinquance.
Oui, avec un encadrement assez strict. Réveil à 7h, levée du drapeau et toute une série d'activités éducatives, sportives ou culturelles. Alors parmi les encadrants, on retrouve des retraités de la gendarmerie ou des associations de la protection de l'enfance venues apporter un cadre à des jeunes qui sont sur la mauvaise pente mais qui ne sont pas encore tombés dans la délinquance. Des mineurs inscrits par leurs parents qui ont parfois du mal à trouver les bons remèdes. Écoutez par exemple cette mère de famille.
Il avait besoin d'encadrement, donc là je pense que d'accord, c'est bien. On va voir 15 jours, là j'espère que vous allez faire le nécessaire avec lui qui va comprendre.
Gabriel Attal, lui, joue les encadrants avec les jeunes.
Beaucoup sur l'écran ?
Ouais, beaucoup
sur le téléphone ?
Sur le téléphone.
Ouais. Bah, c'est bien, ici en plus il y aura une petite cure sans téléphone. Tu vas voir qu'on peut faire plein de choses.
Le Premier ministre qui se dit convaincu par l'idée de l'internat.
Je pense que l'internat, c'est une très bonne solution. Ça permet de couper un jeune de ses mauvaises fréquentations. Ça permet de redonner un cadre quand à la maison c'est difficile d'en donner parce qu'il y a d'autres frères et sœurs, etc.
Gabriel Attal qui affirme enfin que 50 000 places d'internat sont libres en France. En cas de réussite, l'expérimentation pourrait donc être généralisée à l'ensemble du pays.
des internats éducatifs pour juguler la violence hein, des mineurs. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée ? Bien, venez réagir dès 13h20. Europe 1 13h vous donne la parole.
Au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Les 13h04, la suite du journal avec vous, Céline Giraud.
Et c'est désormais officiel, à partir de 2025, il faudra passer au moins 9 mois en France au lieu de 6 pour percevoir les prestations sociales. Maïalène Trémollet, cette mesure était réclamée depuis presque un an par le ministère du Budget.
Oui, c'était une mesure voulue en 2023 par Gabriel Attal, alors ministre délégué chargé des comptes publics. Il avait fait de la lutte contre la fraude l'une de ses priorités, comme il l'avait expliqué au micro d'Europe 1.
Moi, je souhaite qu'on relève la condition de résidence pour toucher les allocations sociales en France, résidence sur l'année, qu'on passe tout à 9 mois pour bénéficier des allocations sociales. Ça sera à compter de 2024. 1 euro soustrait à la solidarité nationale, c'est de l'État qui recule.
Concrètement, les aides concernées sont par exemple les allocations familiales, la prime à la naissance d'un enfant ou encore la prime vieillesse. Dans l'entourage du Premier ministre, on se félicite de la mise en application rapide d'une mesure de fermeté, une mesure pour d'une part plaire à la droite, mais aussi montrer que le gouvernement est au travail dans la lutte contre la fraude sociale. On ne peut pas laisser le Rassemblement national dire qu'on ne fait rien, explique un conseiller de Matignon qui ajoute « L'objectif, c'est de faire plus et d'aller plus loin. La fraude sociale que le Premier ministre qualifie d'impôt caché est évaluée à plus d'1 milliard d'euros pour 2023. »
Maïalène Trémollet du service politique d'Europe 1. À l'Assemblée nationale, cette fois, c'est le début du marathon législatif pour le projet de loi sur la fin de vie et l'aide active à mourir. La commission spéciale présidée par l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudeau, débute ses auditions. Mais ses travaux débutent par une polémique. Jacques Serret, plusieurs collectifs de soignants ne sont pas conviés au débat.
Oui, ils ne sont pas invités alors qu'ils souhaitent être entendus. Selon le Figaro, pas moins de 13 sociétés savantes ont adressé c'est une lettre à la présidente de la commission spéciale, Agnès Firmin-Lebaudeau, ancienne ministre de la Santé, aujourd'hui députée Horizon, et à Olivier Falorni, député Modem, pro-euthanasie, nommé rapporteur de cette commission. Dans ce document, infirmières, gériatres, psychiatres et oncologues, tous font part de leur totale incompréhension. Nous sollicitons officiellement et formellement une audition pour chacune de nos organisations, écrivent-ils. Les soignants que nous représentons seront les premiers concernés par le projet de loi et seront tenus de mettre en œuvre ces dispositions. Rappelle-t-il à raison, mais ils ne sont pas conviés, en tout cas pour le moment. Il faut dire que le calendrier est très serré. Si l'examen du texte en commission spéciale débute aujourd'hui, son arrivée dans l'hémicycle au milieu des 577 députés a été fixée au 27 mai. L'exécutif espère que l'Assemblée l'adoptera rapidement avant le 9 juin et les élections européennes.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et si vous souhaitez réagir justement, faut-il convier ce collectif de soignants ? Qu'en pensez-vous ? Venez réagir avec nous. Olivier Dartigol, Georges Fenech seront là dans le studio pour en débattre.
Et vous nous appelez au 01 80 20 39 21 Europe 1, il est 13h07.
Et dans quelques instants, Europe 1 13h continue. Bien sûr, la suite avec le chanteur Kenji Girac blessé par balle au thorax. Les détails sur ce qui pourrait être un accident domestique. Et puis, c'est le début de la semaine européenne de la vaccination. La Haute Autorité de Santé veut simplifier le calendrier vaccinal. Qu'est-ce que cela change pour vous ? Eh bien, la réponse dans une poignée de secondes.
De 13h à 14h, Céline Giraud vous informe sur Europe 1.
Europe 1. Europe 1 13h.
Merci de nous rejoindre, vous écoutez Europe 1 13h09, la suite du journal avec vous, Céline Giraud.
Avec cette question, que s'est-il passé cette nuit à Biscarrosse dans les Landes ? Le chanteur Kenji Girac a été blessé par balle cette nuit, touché au thorax. Il a été rapidement pris en charge au CHU de Bordeaux. Stéphane Place, vous êtes justement devant cet hôpital pour Europe 1. À la mi-journée, l'état de santé du chanteur se veut rassurant.
Oui, de sources proches de l'enquête, on a appris ce matin que les jours du chanteur ne sont heureusement plus en danger. Actuellement soigné par les spécialistes du CHU de Bordeaux, Kenji Girac avait été pris en charge par les secours en tout début de matinée, grièvement blessé par balle, touché au niveau du thorax. Le jeune homme de 27 ans qui se trouvait alors sur l'aire de passage des gens du voyage à Biscarrosse dans les Landes, il a été atteint par ce coup de feu vers 5h30, sans que l'on connaisse à l'heure actuelle le déroulement précis des faits. Et c'est évidemment tout l'enjeu des investigations que mènent la gendarmerie, la brigade de recherche de Parentis-Sans-Born et la section de recherche de Pau sont mobilisés par le procureur de Mont-de-Marsan et il s'agit de comprendre ce qui s'est passé toute la matinée avec l'aide des techniciens de l'identification criminelle et d'une équipe sinophiée. Eh bien, ces enquêteurs ont ratissé la zone qui se trouve à Biscarrosse, non loin de l'aérodrome. Audition, recueil de témoignages, prélèvement d'indices, c'est le travail qu'effectuent les gendarmes avec différentes hypothèses sur la table pour l'instant et beaucoup beaucoup de questions. Est-ce un accident, comme il peut s'en produire quand on manipule une arme? Est-ce qu'une autre personne, un tiers, serait intervenue ou absolument pas? À qui appartient cette arme aussi? Vous le voyez, il y a des interrogations, elles sont nombreuses, et un scénario qui reste à établir pour comprendre comment le vainqueur de la saison 3 de The Voice, originaire de Dordogne, a été blessé grièvement dans les premières heures de cette journée.
Stéphane Place, en direct de Bordeaux pour Europe 1. Ce matin, le gouverneur de la Banque de France présentait sa traditionnelle lettre annuelle au président de la République. Il a profité de l'occasion pour célébrer les 25 ans de l'euro. Mais au-delà d'un satisfecit sur la baisse de l'inflation, le gouverneur alerte sur la méthode de l'exécutif pour réduire le déficit, Barthélémy Philippe.
Et oui, Céline, le gouverneur s'élève contre ceux qui croient qu'un retour de la croissance suffira à réduire le déficit. Or, c'est bien la méthode d'Emmanuel Macron depuis 2017 et ces dernières semaines encore. Le président demande même au ministre de ne pas insister sur la baisse des dépenses publiques. Mais pour François Villeroy de Gallo, la réduction du déficit et de la dette passe bien par un effort de maîtrise des dépenses. Il faut au moins les stabiliser en volume, dit-il. Les dépenses de l'État et des collectivités, bien sûr, mais aussi les dépenses sociales. Enfin, sur la fiscalité, le gouverneur est formel. Notre pays n'a pas les moyens de faire de nouvelles baisses d'impôts non financées. Là aussi, l'exécutif est visé à demi-mot, car Emmanuel Macron maintient sa promesse de baisser les impôts pour la classe moyenne l'an prochain. Autre divergence, le locataire de l'Élysée se refuse à toute hausse d'impôts. Or, pour le gouverneur, il ne faut pas écarter des mesures fiscales si sur les ménages et les entreprises.
Les précisions de Barthélémy Philippe du service économique d'Europe 1. En pleine guerre à Gaza, sachez que le chef du renseignement militaire israélien Aaron Aliva a présenté sa démission aujourd'hui. Il dit assumer sa responsabilité dans l'anticipation de l'attaque du 7 octobre dernier.
Il est 13h13 sur Europe 1 et à l'occasion de la semaine européenne de la vaccination, la Haute Autorité de Santé veut simplifier ses lignes, le calendrier vaccinal.
Oui, 84% des Français sont favorables à la vaccination, mais pas toujours bien informés. Les échéances se sont éparpillées tout au long de sa vie. Difficile de s'y retrouver à l'âge adulte, notamment quand on perd son carnet de santé, ça arrive. Mélanie Gomez, la Haute Autorité de Santé, souhaite faire passer un message urgent. Il y a 3 tranches d'âge où il faut aller se faire vacciner.
Oui, tous les parents le savent, plusieurs vaccins doivent être faits entre la naissance et les 3 ans de chaque enfant. En revanche, beaucoup d'entre nous ignorent qu'entre 11 et 14 ans, puis à partir de 65 ans, il faut se refaire vacciner. Des périodes durant lesquelles le système immunitaire est plus vulnérable, alerte Anne-Claude Crémieux, professeur en infectiologie et présidente de la commission technique des vaccinations à la HAS.
Les adolescents, ils vont avoir des interactions sociales très importantes, ce qui va les amener à être au contact avec des agents pathogènes, comme par exemple le méningocoque et évidemment le papillomavirus. Et puis les plus de 65 ans, à ce moment-là, nos défenses contre les infections sont moins efficaces. On doit tenir compte de sa fragilité plus importante aux infections et se faire vacciner.
Alors cet infectiologue en est convaincu, c'est grâce à ces explications simples que les personnes concernées retiendront le calendrier vaccinal. Avec ou sans carnet de santé à jour, à l'adolescence et après 65 ans, il est donc recommandé de faire le point avec son médecin ou même avec son pharmacien, car oui, ça vous a peut-être échappé, mais depuis l'été dernier, les pharmaciens peuvent aussi bien prescrire qu'administrer tous les vaccins chez les patients de plus de 11 ans.
Merci Mélanie Gomez pour toutes ces précisions, chef du service société à Europe 1. 13h14, on fait un point comme chaque jour sur les marchés. Avec vous Claire Lemaître de boursier.com, c'est lundi et un CAC 40 très prudent.
Oui, une toute petite hausse, plus 0,1%, 8032 points. Et le CAC 40 qui avance sur la pointe des pieds avant une vague de résultats, les résultats notamment des géants américains de la tech avec Meta, Tesla, Alphabet ou encore Microsoft. Et on attend aussi cette semaine des indicateurs économiques essentiels aux États-Unis pour la trajectoire des taux. À Paris, Alstom a annoncé la vente de son activité de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord, opération à 630 millions d'euros. Le titre était en hausse ce matin, mais il perd maintenant 0,7%. Et c'est du vert pour les banques. Crédit Agricole et BNP Paribas gagnent plus de 1%, plus 0,8% pour Société Générale. Les indices européens sont en hausse. Londres gagne plus de 1%. Plus 0,6 pour Francfort, plus 0,3 pour Amsterdam, plus 0,1 pour le CAC 40 à Paris, 8032 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. La météo maintenant avec vous Géraldine Hamon et des températures toujours très fraîches pour la saison.
Exactement Céline, il fera par exemple 8 degrés à Grenoble, 10 degrés à Boulogne-sur-Mer, 11 à Nancy, 12 à Saint-Brieuc et Lyon, 13 à Paris, 14 degrés à Rennes, 16 degrés à Bastia et Toulon, jusqu'à 17 degrés à Ajaccio et Quimper. Pour le ciel maintenant, eh bien c'est un temps instable qui résiste sur l'Est avec de faibles averses de l'Alsace-Lorraine au centre-Est, des flocons qui vont tomber sur les Alpes du Nord et les Vosges et le Jura. Un peu de neige aussi est attendue sur le massif central. En Provence et en Corse, ces averses seront plus fréquentes et peuvent être accompagnées de quelques orages sur la Côte d'Azur notamment. En haut, au nord, sur les côtes de la Manche notamment, de petites ondées s'étendent de la Bretagne et la Normandie aux Ardennes en passant par le centre. Notez aussi qu'une nouvelle perturbation va arriver par le nord-ouest ce soir. Sur le reste du pays, le temps est un peu plus calme avec de belles éclaircies. Attention, puisque le Mistral et la Tramontane se renforcent et vont souffler en rafale jusqu'à 80 km/h. Et demain, le temps sera encore faiblement perturbé sur le nord-ouest et les températures toujours aussi fraîches. La saison.
Merci.
On garde les gants et la doudoune.
Voilà. Merci Géraldine Hamon. Et nous, on reste ensemble évidemment jusqu'à 14h au chaud avec vous sur Europe 1. Décryptage avec Georges Fenech et Olivier Dartigol. On va revenir évidemment sur le déplacement de Gabriel Attal à Nice pour expérimenter ses internats éducatifs. Les élections européennes, bien sûr. Bardella, toujours en tête dans les sondages, qui souhaite la dissolution de l'Assemblée en cas de victoire. Ce maire du côté de Myon, qui démissionne et dénonce des attaques antisémites s'émite à son égard. D'autres sujets bien sûr avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Venez réagir, Europe 1 13h vous donne la parole.
De 13h à 14h, vous écoutez Céline Géraud. Bon début d'après-midi sur Europe 1.